L'échauffement des esprits, Benoît Rito.
Pour cette émission qui est en direct, ce soir nous recevons dans l'échauffement des esprits Rémi Prudhomme, qui était déjà des nôtres il y a quelques semaines. Rémi, bonsoir.
Bonsoir.
Se tutoie-t-on, se vouvoie-t-on ?
Se tutoie.
On se tutoie dans la vie, donc inutile de faire semblant d'une distance et continuons à faire comme nous avons l'habitude de faire. Donc tu es professeur, tu es économiste, tu es professeur émérite à l'université de Créteil, Paris-Est. Si on déroule ton CV, on n'a pas fini. Tu as travaillé à l'OCDE, tu as travaillé pour le FMI.
Pour
la Banque mondiale surtout.
C'est la maison d'en face. Peut-être la 18e rue.
Tu as travaillé aussi au MIT. Tu as été professeur associé là-bas. Tout un tas d'autres choses, bon, qui ne sont pas exactement le sujet de ce soir, mais c'est juste pour situer un petit peu d'où tu viens. Et tu es avec nous ce soir pour parler.
Et surtout, je dirais, je suis fils de paysan. Mes parents étaient agriculteurs, ils n'avaient pas fait d'études secondaires, ni évidemment supérieures, et donc j'ai été élevé à la campagne, et lorsque un certain nombre de bobos urbains viennent me donner des leçons sur la nature, eh bien ça me fait rigoler, et ça ne m'impressionne pas énormément.
Et donc, au milieu de tout ça, tu as un regard qui est assez voisin, tout à fait voisin d'une autre et de l'esprit général de cette émission, qui porte un regard critique sur la question climatique et la façon dont elle est abordée aujourd'hui dans les principaux médias d'information. Et tu abordes surtout la question sous l'angle économique, qui est ta spécialité, c'est ça qui est intéressant. Alors d'abord, on peut peut-être signaler qu'il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines, tu as publié un livre aux éditions de l'Artilleur qui s'appelle « Le mythe des renouvelables » avec un sous-titre que tu aimes bien et dont tu es fier et dont tu ne veux pas que j'oublie de mentionner l'existence. « Quand on aime, on ne compte pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que trop de problèmes en France, et en particulier dans ce domaine, ne cherche pas à savoir combien coûtent les propositions qui sont faites pour résoudre les problèmes. Et que des décisions sont prises sans qu'on en ait mesuré les conséquences économiques. Et économiques, ça veut dire sur le portefeuille et le niveau de vie de beaucoup de gens, en particulier, comme on va le voir, je pense qu'on va revenir là-dessus, et en particulier des plus pauvres.
Donc l'idée générale, c'est qu'on parle de transition énergétique. On a l'intention, la France a affiché son intention de diminuer notamment la part de nucléaire, d'augmenter la part de renouvelables dans la production d'électricité à l'horizon 2025-2030. Et précisément, il y a quelques jours, le ministre, non pas de l'environnement, mais attention, de la transition écologique et solidaire, dans cette novlangue assez particulière, donc Nicolas Hulot, a dû reconnaître qu'on ne pourrait pas tenir les engagements qui avaient été pris lors du vote de la loi de la transition énergétique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu nous l'avais dit ici même, sur cette antenne, il y a quelques mois, tu avais dit, mais c'est complètement délirant d'imaginer qu'on va fermer autant de centrales en si peu de temps, alors que les besoins sont ce qu'ils sont.
Oui, je n'étais pas le seul à dire ça. Tous les gens raisonnables qui s'étaient penchés sur le sujet en cherchant à savoir comment ça pouvait être fait et à quel coût étaient déjà arrivés à cette conclusion. D'autant plus importante que ce qui était proposé, plus que proposé, ce qui était décidé par le Parlement, c'était de remplacer une source d'énergie qui ne rejette pas du tout de CO2, à savoir le nucléaire, par une autre source d'énergie qui ne rejette pas non plus de CO2, en sorte que tout cela avait un impact nul sur les rejets de CO2, même si toutes ces mesures nous étaient présentées comme une façon de lutter contre le réchauffement climatique. Alors que celui-ci existe, dans quelle importance, dans quelle mesure il est engendré par le CO2, sont des questions dont on peut discuter, mais en tout cas, vendre comme des mesures qui vont réduire les rejets de CO2, alors qu'on sait parfaitement qu'elles ne vont avoir aucun impact sur ces rejets, c'est une forme d'inconscience ou de malhonnêteté intellectuelle qu'il est important de dénoncer. Et alors je suis évidemment très content que le gouvernement, bon gré mal gré, parce que ça lui fait perdre un petit peu la face, a fait prévaloir la raison et que Nicolas Hulot a eu le courage de manger son chapeau avec équanimité, et ça n'a pas dû être très facile pour lui, mais en tout cas c'est une chose qui est maintenant un peu acquise et c'est un progrès dont il faut se réjouir.
Alors, d'un autre côté, un progrès, on va gagner 5 ans. Est-ce qu'on est vraiment raisonnable dans cette annonce de, bon, pas 2025, mais 2030? Finalement, est-ce que 2030 paraît évidemment beaucoup tout aussi déraisonnablement proche? Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dans 2-3 ans, on nous dise que ce sera 2035, 2040, 2045?
Ce qui est pris est pris. Gagner du temps en économie, c'est toujours quelque chose d'important. Dépenser, même si c'est pour gaspiller de l'argent dans 10 ans, c'est mieux que de le dépenser aujourd'hui.
Alors, comment ça se fait d'après toi, qu'on ait pu prendre une décision comme celle-là, où on, effectivement, c'était pas difficile de se rendre compte qu'on ne pourrait pas faire autant en si peu de temps, que ce serait déraisonnable. Est-ce que c'est juste? Bon, il y a l'explication facile, évidemment, c'est des effets d'annonce, etc. Mais quand même, on ne prend pas ce genre de décision à la légère. Qu'est-ce qui s'est passé?
En l'occurrence, si, on les a prises à la légère. Alors, comment et pourquoi? Là, c'est pas un économiste de répondre, c'est un politicologue ou un sociologue.
On a d'autres exemples de décisions économiques un peu aberrantes et pourtant qui sont prises, mais
oui,
comment ça se passe?
C'est pas rare. Les hommes politiques prennent les décisions qui servent leurs intérêts politiques pour plaire à leurs électeurs ou faire des choses dont ils pensent qu'elles vont plaire à leurs électeurs, d'une part. Et en l'occurrence, il y a eu une telle propagande sur tous ces sujets, on a tellement présenté le nucléaire comme étant quelque chose d'absolument apocalyptique que dire on va réduire la part du nucléaire était, et je pense d'ailleurs dans une certaine mesure, reste populaire. On a l'exemple de l'Allemagne, les Allemands sont supposés être des gens raisonnables, en réalité ils le sont encore bien moins que nous, parce qu'ils sont mus par des idéaux, ils ont créé une commission éthique, dans laquelle il y avait des évêques, principalement, et des philosophes, qui a expliqué que le nucléaire c'était un péché, que c'était mal. En revanche, consommer de l'électricité nucléaire importée de France, ça c'était quelque chose qui était acceptable aux yeux de ces moralistes-là. Il devait y avoir des jésuites parmi les évêques, probablement. Mais en France, le fait est qu'il y avait là quelque chose de populaire. D'un autre côté, les renouvelables sont soutenus par une telle propagande. Il y a un lobby des renouvelables qui est tellement puissant. Et on reviendra peut-être là-dessus, sur les raisons pour lesquelles il est puissant, que l'idée de remplacer par des renouvelables était, dans l'opinion publique, dans les médias, chez beaucoup de personnes, était quelque chose qui avait de l'attrait. Et donc les gouvernements et le Parlement ont, dans leur grande majorité, pris cette décision qui n'était pas tenable, et qui était extraordinairement coûteuse. Alors, ils s'en sont rendus compte in extremis, il faut s'en féliciter.
Mais précisément, tu parlais du lobby renouvelable extrêmement puissant. En France, on a aussi quand même un lobby nucléaire extrêmement puissant. Comment ça a été, en quelque sorte, lobby contre lobby? Dans un premier temps, le lobby nucléaire a quand même voulu aussi utiliser l'affaire du réchauffement climatique pour dire, vous voyez, nous autres du nucléaire, nous sommes vertueux en termes de CO2. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'action du lobby nucléaire qui a réussi à fonctionner pour les renouvelables?
D'abord, le lobby nucléaire, il n'est pas très puissant, contrairement à ce que l'on dit fréquemment, ni en France, ni dans le reste du monde. En particulier par rapport au lobby des renouvelables. Je donnerai simplement deux chiffres. Le premier, c'est que actuellement, 2016 ou 2017, les investissements dans le nucléaire, c'est 10 milliards d'euros, ou de dollars plutôt, c'est à peu près pareil, c'est 10 milliards d'euros par an.
Où ça, dans le monde?
Dans le monde. Les investissements dans le photovoltaïque et l'éolien, c'est à peu près 300 milliards. D'euros, de dollars par an. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour imaginer qu'un groupe qui investit 10 milliards, il a moins de lobbyistes qu'un groupe qui en investit 30 fois plus.
Mais en France, c'est moins tranché quand même.
Même en France, on fait très peu d'investissements, on dépense très peu d'argent dans le nucléaire, alors qu'on fait des investissements absolument considérables dans l'éolien et le photovoltaïque. Et en plus de ça, l'éolien et le photovoltaïque n'existent que grâce aux subventions dont ils bénéficient de la part des pouvoirs publics. En sorte que les partisans de ces énergies renouvelables ont un intérêt majeur à faire en sorte que les parlementaires, les politiciens prennent des mesures qui soutiennent leur activité. C'est leur métier, c'est de ça qu'ils vivent, donc c'est pas difficile de comprendre que ils le font, et ils le font assez efficacement, parce que des mesures très nombreuses sont prises qui leur permettent de se développer. Donc cette histoire de lobby ne rime pas à grand chose en vérité. Mmh. Et s'il y a un lobby, c'est bien dans le domaine des renouvelables, pas dans le domaine du nucléaire.
Alors on parlait d'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, et notamment c'est un argent un peu particulier qui est l'argent public.
Absolument.
Et donc ça amène à parler de ces grandes réunions où il est question d'argent. Il y en a deux dont on peut parler, mais tu en connais d'autres dont tu peux parler aussi. C'est d'une part la COP23 qui vient de s'achever à Bonn, où il était quand même en principe question d'argent, puisqu'il est toujours question d'un fonds vert pour le climat, où on doit mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Je crois qu'on en est à peu près à 10 milliards en tout pour la première année, ce qui montre qu'on est encore loin du compte, mais il est question de gros sous. Et puis, la réunion internationale voulue par le président de la République, Emmanuel Macron, le 12 décembre, à l'occasion du deuxième anniversaire de la signature de l'accord de Paris. Donc là, en fait, ce genre de réunion, on voit que bon, il y a des grandes phrases, des grands discours, on affiche sa vertu, mais il est quand même aussi beaucoup, beaucoup question d'argent.
Absolument. Mais avant d'en venir à ces réunions, il faut dire un mot sur l'industrie et la finance des renouvelables. On présente souvent les renouvelables comme une activité un peu bucolique, avec un paysan avec un béret qui fixe des panneaux solaires sur son étable. La réalité est exactement le contraire. Et si on devait avoir une image caricaturale, il faudrait avoir celle d'un gros banquier avec son cigare à son bureau. On a affaire à un secteur qui est devenu extraordinairement important. Je vous citais ce chiffre de 300 milliards d'investissements par an. On peut le comparer au montant des investissements qui sont réalisés dans le globe, dans l'industrie automobile. L'industrie automobile, ce n'est pas une petite industrie secondaire. Eh bien, le montant des investissements est nettement inférieur. Il est inférieur à 200 milliards. Toujours par an. Donc on est bien dans un secteur qui est extraordinairement lourd en investissement. Ce secteur est entièrement dominé par un nombre finalement petit de grandes multinationales qui fabriquent les éléments, qui fabriquent les turbines des centrales ou les panneaux solaires, parmi lesquels, alors qui sont très concentrés. Je crois que les 5 ou 6 premiers dans chaque cas font plus de la moitié du volume de production dans le monde. Il n'y a d'ailleurs aucun Français parmi ces premiers, essentiellement des Chinois et subsidiairement des Allemands. Et puis, autour de ces industriels, il y a les gens d'abord qui... des promoteurs qui créent des champs, comme on les appelle, un terme qui se veut bucolique, mais qui en réalité ressemble davantage à des usines qui n'ont rien de champêtre, absolument, mais qui gagnent aussi beaucoup d'argent en faisant ça. Et puis il y a ceux qui produisent cette électricité, ils n'ont pas grand-chose à faire, d'ailleurs, une fois que les turbines sont installées et que les panneaux solaires sont installés. Et ce qu'il y a derrière ces activités industrielles, c'est la finance. On est dans l'un des secteurs où le rôle des banques, des fonds de toutes sortes est le plus important. Et là encore, on trouve les plus grandes banques du globe qui interviennent couramment dans des achats, dans des ventes qui se situent en milliards ou dizaines de milliards par an, parce que tous ces grands groupes s'achètent les uns les autres. On a vu Alstom se marier avec Gamesa espagnol et puis être racheté ensuite par Siemens, qui maintenant est en train de s'en débarrasser. À chaque fois, vous avez des transactions de 5 ou 6 milliards. Vous avez au passage quelques banques qui réalisent la transaction et qui prennent un pourcentage qui n'est pas négligeable. Donc on est bien dans un système de très, très big business, de très, très gros business. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut revenir à toutes ces réunions où on va, en effet, principalement parler argent. Alors, il y a les deux conférences dont tu as parlé. À la première, on parlait d'argent d'une façon un peu littéraire. Hein. C'était les gens des îles Fidji qui venaient expliquer qu'il fallait leur donner de l'argent. Pour leur donner, ça coûte pas cher. Ils sont quelques milliers. On peut le faire. Et puis, il y avait des gens qui disaient, des gens des pays pauvres, qui disaient il faut nous donner encore beaucoup plus d'argent. Les 100 milliards, ça ne suffit pas. Il faut créer un autre fonds pour donner plus. On est dans le rêve parce que on n'arrive même pas à donner ces 100 milliards que l'on s'était engagé à donner il y a déjà 20 ans, à la COP de Copenhague.
C'était Copenhague, c'était 2009.
Donc
c'était il y a bientôt 10 ans. C'est bientôt 10 ans.
Bientôt 10 ans. Donc là, on était dans des discours sympathiques qui n'ont abouti à rien du tout, si ce n'est bizarrement de préparer la COP 24, qui d'ailleurs comme aura lieu à Katowice en Pologne, dans le centre charbonnier de la Pologne, ce qui est un peu un gag pour une conférence qui a comme principal objectif de réduire la consommation de charbon. On va bien s'amuser dans un an à voir ce contraste, pour ne pas dire cette contradiction, se dérouler. Alors genre, on en revient à ces conférences qui sont très nombreuses. Ce matin même, j'ai reçu dans le courrier de la publicité ou de l'information sur une conférence qui s'appelle, je crois, là, tout se passe en anglais, évidemment. Si vous ne parlez pas anglais, vous n'existez pas dans le domaine de la finance des renouvelables. Et là, il y a une grande conférence européenne seulement, qui s'appelle, je crois, Clean Energy Finance, qui a lieu à Francfort au début de l'année prochaine. Et qui sera à laquelle il y aura un certain nombre de patrons de très grosses entreprises et de très grosses banques et de très grands fonds. Pour vous donner une idée de la façon dont ce genre de système fonctionne, je vais vous dire ce que coûtent les droits d'inscription pour une conférence qui va durer 2 journées. J'ai demandé à mes amis climato-réalistes combien ça pouvait coûter. Alors ils m'ont dit 100 euros.
Oui, on s'est trompé de loin.
300 euros. Le chiffre correct, c'est 1 800 euros. Alors évidemment, à 1 800 euros, il n'y aura pas énormément de climato-réalistes qui seront là. Donc les gens paieront 1 800 euros, essentiellement pour rencontrer des gens qui peuvent payer 1 800 euros et faire du business avec eux.
Le prix moyen d'une conférence de ce genre, c'est combien? C'est pour situer.
J'en sais rien. Les conférences qui rassemblent des conférences académiques, on est dans un rapport de 1 à 10. On fait payer des droits d'inscription, et encore pas toujours d'ailleurs, qui sont du côté de 100 ou de 150 euros parce qu'il y a des frais de
d'organisation générale,
d'organisation qui interviennent, les réunions professionnelles de gens qui s'occupent de je ne sais pas quoi, la chimie des polymères, quelque chose, ça doit être du côté de 300-400 euros, mais j'avais jamais vu encore des réunions où on payait comme droit d'inscription pour 48 heures de 1 800 euros, sans compter évidemment les hôtels à 500 euros où ces gens vont aller, et les voyages en jet privé ou en, ou en première classe dans les avions qui iront sur Francfort. Alors, c'est un peu anecdotique, ça, ce chiffre, mais il donne tout de même beaucoup à penser, n'est-ce pas ? Il décrit tout de même le monde des renouvelables. Et quand on entend ça, après avoir entendu des discours sur les ours blancs qui disparaissent, d'ailleurs ils ne disparaissent pas maintenant, il y en a trop. Je lisais aussi ce matin dans les nouvelles qu'on a trouvé en Sibérie 200 ours qui étaient en train de manger une baleine échouée, les ours blancs, et qu'on est inquiet parce que quand ils auront fini leur baleine, ils pourront aller dans les villages de pêcheurs voisins. Et donc le problème des ours blancs n'est plus leur disparition comme on le racontait il n'y a pas si longtemps, puisque l'ours blanc sur sa banquise, là où son iceberg, était l'un des symboles graphiques du réchauffement climatique. Donc j'en reviens à ces conférences pour souligner le fait qu'elle démontre ce que j'avance en termes un peu généraux, à savoir dire qu'on est dans le domaine de la du big business et des grandes banques.
Et donc la réunion organisée par Emmanuel Macron le 12 décembre, c'est aussi du même ordre. On a aussi affaire à en fait une grosse opération de fundraising. Il s'agit de ramasser de l'argent.
Absolument. Ce sont les mêmes. Il y aura les mêmes participants d'ailleurs, selon toute probabilité. Et nos braves écologistes seront complètement écartés de ce genre de lieu où ils n'ont pas leur place.
Alors, juste pour revenir sur deux choses que tu as dites. Et pour les prolonger un petit peu en allant un peu plus vers le climat proprement dit. Donc tu as parlé des Fidji. Donc les Fidji ont été la présidence de la COP23, donc 23e conférence mondiale de sauvetage de la planète qui a lieu tous les ans. Donc était présidée par les Fidji, avait lieu à Bonn en Allemagne. Et à l'occasion de cette COP23, donc un organisme allemand climato-réaliste qui s'appelle EICKE a financé des recherches qui ont été menées par Nils Axel Mörner et Pamela Klein, qui sont deux chercheurs et qui sont notamment spécialistes de l'étude du niveau marin. Et donc j'étais il y a quelques semaines à Düsseldorf où ils ont présenté leurs résultats. EICKE a financé donc leur voyage et leur travail pour étudier l'évolution du niveau marin aux Fidji. Et le bilan est qu'aux Fidji, la mer ne monte pas, connue évidemment des évolutions parce que le niveau marin, on sait bien depuis toujours qu'il n'est pas constant, il monte, il descend. Là, il monte légèrement à l'échelle mondiale, mais selon des modalités très contrastées selon les régions. Et pour ce qui est des Fidji, il n'y a pas d'augmentation mesurable réelle depuis au moins une cinquantaine d'années. Donc si on tient compte, disons, de ce qui peut se passer par ailleurs, on sait aussi que sur des atolls coralliens, la mer peut monter, mais les îles montent en même temps. Ça avait été remarqué déjà par Darwin au milieu du 19e siècle. Donc on ne sait pas, pour en revenir, pour donner un argument économique qui intéressera peut-être l'économiste que tu es, on a beaucoup parlé des Maldives et de la submersion prochaine des Maldives. Alors pour savoir si vraiment il y a à être inquiet, plutôt que de demander à l'ancien président maldivien qui avait organisé un conseil des ministres sous la mer pour faire parler de lui, on peut regarder d'une part les mesures, évidemment les mesures physiques de niveau marin qui ne montrent rien de particulier, mais on peut aussi regarder les investissements dans la construction d'aéroports sur des îles on a construit plusieurs, je ne sais plus si c'est une dizaine d'aéroports ces dernières années pour développer le tourisme sur des îles dont le point culminant est rarement au-dessus de 1 mètre. Donc si vraiment, et il s'agit d'aéroports internationaux parce qu'il s'agit vraiment de développer le tourisme international. Donc vraiment, si les investisseurs avaient peur, ils n'auraient certainement pas mis leur argent là-dedans. Et donc je crois que c'est aussi un élément d'appréciation sur le fait que, il y a les discours et il y a les actes, et ce sont deux choses différentes. Et d'autre part, tu as parlé des ours polaires, effectivement, des ours blancs. Alors ça, c'est vrai que on a eu une alarme assez sérieuse. On nous parle régulièrement des ours blancs comme une source d'inquiétude. L'image que tu signales de l'ours blanc tout seul dérivant sur son morceau de glace nous vient du premier film d'Al Gore, donc Une vérité qui dérange, où on voit effectivement un ours qui essaye d'attraper un morceau de glace, et puis le morceau de glace se casse parce que à cause du réchauffement, et donc il est obligé de continuer à nager. Et on imagine qu'il ne va pas pouvoir nager bien longtemps. Toutes ces images-là qui sont dans le film d'Al Gore sont des images de synthèse. On a une image une photo qui a beaucoup tourné d'un ours qui est effectivement tout seul sur un petit iceberg. C'est un montage. Hein, on le sait aussi, c'est pas un ours, on a mis un ours, enfin, on a photoshopé le truc. Donc on n'a pas du tout, enfin, tous ces symboles-là, en fait, sont des symboles qui ont été fabriqués. Et si on regarde les données disponibles sur les ours blancs, eh bien, on a principalement deux chiffres. Alors, il y en a plus que ça, mais si on en donne deux pour résumer les choses. Au milieu du XXe siècle, il y avait environ 5000 ours blancs qui avaient été dénombrés. Et aujourd'hui, on est à plus de 25 000. Essentiellement grâce à l'interdiction de la chasse, puisqu'effectivement au milieu du XXe siècle les ours blancs étaient une espèce menacée, et en réalité leur nombre n'a cessé de croître depuis l'interdiction de la chasse, au point que à la fin du XXe siècle il commençait à être question de réautoriser la chasse. Une chasse est un peu plus raisonnée que ce qui se pratiquait auparavant, effectivement, et tu l'as dit, notamment pour réguler la population et pour éviter que les ours blancs n'aillent trop près des habitations, parce que on sait que l'ours blanc, effectivement, c'est un animal magnifique, hein, on est tous d'accord là-dessus, il est grandiose, il a un pelage tout à fait splendide, et comprend bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'il faut préserver ce type d'espèce, mais on ne doit pas oublier néanmoins que c'est un prédateur redoutable, extrêmement féroce, un des très rares animaux qui chasse l'homme, et qui n'a absolument pas peur de l'homme, et qui peut faire des ravages si on n'y prend pas garde. Effectivement, les villages qui sont dans le Grand Nord, donc ça peut être en Sibérie, ça peut être dans le Nord du Canada, peuvent être effectivement menacés, et c'est un peu le cas, parce que les ours blancs ne sont pas plus bêtes que les autres animaux. Ils remarquent que les déchets des êtres humains, souvent il y a à manger, que c'est pas mauvais, et que c'est gratuit, il suffit d'aller vers les poubelles, et on peut avoir il y a potentiellement un danger pour la population si on n'y prend pas garde. Donc tout ça, on sait aujourd'hui que les ours polaires en réalité ne sont pas menacés, leur population a tendance à croître, et ça continue, c'est mesuré, notamment Susan Crockford, qui est une spécialiste, avait fait un exposé en ce sens il y a quelques mois que j'avais vu. Alors il y a différences d'espèces, différents lieux où on peut les regarder. Et en gros, évidemment, il y a des endroits où il y en a un peu plus, des endroits où il y en a un peu moins, c'est toujours contrasté. Mais en gros, la population se porte bien et a plutôt tendance à croître ces dernières années. Donc je pense que ça fait partie des choses. C'est pas exactement du même ordre que la petite éolienne dans le champ du paysan, mais ça fait partie aussi de ces symboles qu'il est bon d'analyser un peu plus précisément. Donc si on en revient soit à la COP23, soit à la prochaine réunion qui est organisée à Paris par Emmanuel Macron, tout cet argent, est-ce qu'on va vraiment le donner, et si oui, il viendra d'où?
L'argent ne peut guère venir que des pauvres utilisateurs de l'électricité ou des pauvres contribuables. Alors, il y a des mécanismes qui ont été mis en place à cet effet. Dans tous les pays où les renouvelables, quand je parle de renouvelables, je parle uniquement d'éolien et de photovoltaïque, pour la raison que ça fait la 90 ou 95% de l'électricité produite par des renouvelables. Et je parle d'électricité parce que pratiquement les renouvelables n'interviennent que via l'électricité. Il y a un peu de la géothermie qui peut chauffer directement, mais on est dans des choses qui sont tout à fait marginales.
Vous précisez qu'il y a une astuce classique qu'on peut peut-être rappeler ici, qui consiste pour les organismes publics qui veulent promouvoir les renouvelables à intégrer l'électricité hydraulique parmi les renouvelables, alors que bon, ça n'a rien à voir avec l'idée générale de transition énergétique.
Et donc ensuite, parce que l'hydraulique, on a au moins dans,
on a saturé,
pays, au moins dans les pays développés, fait à peu près tout ce qui pouvait l'être. Alors il reste encore beaucoup de choses à faire en Afrique et en Amérique latine, et c'est très désirable que cela soit fait. Encore que les écologistes soient souvent opposés aux travaux hydrauliques qui... paraît-il, menace certaines espèces qui noient des vallées, etc. Et donc, dans un pays comme la France, personne n'envisage que l'on puisse développer dans des proportions un peu importantes l'hydraulique. On peut toujours développer un petit peu, faire sur des rivières, par exemple.
Mais c'est ce qui permet de dire, quand on intègre l'hydraulique aux renouvelables, c'est ce qui permet de dire que les renouvelables produisent déjà beaucoup d'énergie. Alors qu'en réalité, ce dont il est vraiment question, c'est qu'ils ont principalement le solaire et l'éolien, et c'est 4% à peu près de la production d'électricité
en France.
Dans le monde,
éolien et photovoltaïque représentent 4% de la production d'électricité du monde, qui elle-même ne présente que 40% de l'énergie qui est consommée. Donc par rapport à l'énergie, puisqu'on nous parle toujours d'énergie, les renouvelables intermittents, comme on les appelle, représentent quelque chose comme même pas 2% de l'énergie qui est consommée. Les chiffres pour la France sont du même ordre de grandeur, ils sont un peu plus élevés. On est du côté de 5% de l'électricité. Et en fait, il y a quelques pays qui sont bien au-delà. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. Il y a des pays comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Il y a le cas du Danemark qui est très particulier, parce que le Danemark est adossé à la Norvège, mais c'est plus économiquement une région de la Norvège qu'un pays où on est du côté de 40 ou 50%. L'Italie, le Royaume-Uni sont au-delà de 10%, mais pratiquement personne n'est au-delà de 20 ou 25%. Et quand on nous explique qu'on va en France dans quelques années atteindre 30%, on est dans un domaine qui n'est pas tout raisonnable du tout. Et il y a même des gens pour dire qu'il faut aller à 50%, voire 100%.
On avait 100% renouvelable en 2050. L'ADEME a produit quand même un rapport dont il a fait, en essayant d'en faire parler.
Là, on est dans
le rêve, et plus que dans le sérieux.
Mais revenons aux questions de financement, voilà, parce que elles sont très importantes. Dans tous ces pays, le développement des renouvelables a été assisté par des mesures politiques qui ont consisté en pratique à mettre une taxe sur toute l'électricité produite et à subventionner ces énergies renouvelables électriques et solaires. Le poids de ces subventions est souvent considérable. Actuellement, en France, il y a beaucoup de façons de le calculer, mais il est du côté de 5-6 milliards. Je vous rappelle que le budget de la justice en France, il est de 7-8 milliards. Donc on dépense en subvention aux renouvelables, et ça augmente d'année en année. Ça va continuer à augmenter du même ordre de grandeur que ce que l'on dépense pour le budget de la justice, dont chacun sait combien il est insuffisant. Qui est-ce qui paye tout cela ? C'est en partie les industriels qui achètent de l'énergie plus chère, et c'est en partie les ménages, principalement d'ailleurs, les ménages qui paient leur électricité plus chère. Et on a des données tout à fait intéressantes sur l'Europe qui montrent que plus le taux de pénétration de ces renouvelables est élevé, et plus le prix de l'électricité payée par les ménages est élevé. En France, on est du côté de 150 euros par mégawattheure payé par les ménages. En Allemagne, où il y a à peu près trois fois plus de renouvelables qu'en France, on est au double de 300 euros. Ce que l'on voulait faire en France, qui a dû faire réfléchir un peu le gouvernement, sinon M. Hulot, c'était aller plus loin que l'Allemagne. Ce qui veut dire que les prix de l'électricité en France auraient, si cette ces folies avaient été mises en œuvre, aurait pratiquement triplé. Et le plus grave, c'est que cette augmentation des prix de l'électricité frappe plus durement les pauvres que les riches. Pourquoi ? Parce que la part de l'électricité dans le budget augmente moins rapidement que les revenus. C'est-à-dire que un riche consacre à l'électricité une part de son budget qui est bien plus faible que la part que le pauvre consacre à son électricité. Et on a donc une taxe, c'est ce qu'on appelle une taxe régressive, qui en pourcentage du revenu des gens augmente inversement comme le revenu. Alors, il y a d'autres taxes qui sont régressives, puis il y a d'autres taxes qui sont progressives, et d'autres taxes qui sont proportionnelles. Mais enfin, l'idée d'aggraver la régressivité de l'impôt ou de diminuer sa progressivité n'est pas une idée particulièrement sociale, puisqu'elle revient à faire payer les profits des riches et les conférences dont on parlait tout à l'heure par les ménages les plus pauvres, certains étant amenés à réduire leur chauffage, à s'éclairer moins, à faire des choses qui sont une grave atteinte à leur niveau de vie et leur santé. Et ça, s'il est vrai en France, c'est encore plus vrai pour des pays en développement. Le cas de l'Afrique est particulièrement impressionnant. L'Afrique, plus de la moitié des Africains n'ont pas du tout accès à l'électricité. Ils ont absolument besoin d'électricité pour se développer. Et les COP ont explicitement expliqué qu'il ne fallait pas qu'ils utilisent du charbon pour faire de l'électricité, au point que le gouvernement français interdit à ses banques et à l'aide officielle de financer des centrales au charbon. Mais comme les autres façons de faire de l'électricité, à commencer par l'éolien et le photovoltaïque, coûtent beaucoup plus cher, ça veut dire que la plupart des pays africains ne peuvent pas avoir de l'électricité. Alors on peut toujours avoir un peu, avoir quelques panneaux dans des endroits qui sont très éloignés et qui vont fonctionner dans la journée, et puis un petit accumulateur qui fera qu'ils pourront utiliser peut-être pour dans le meilleur des cas pour regarder la télévision le soir, en tout cas assez pour recharger leur téléphone portable. Mais globalement, cet effort pour empêcher les pays africains et l'Inde, qui est dans la même situation, où il y a 500 millions d'Indiens qui n'ont pas accès à l'électricité, ces efforts faits pour empêcher ces gens d'avoir des centrales au charbon revient à les empêcher d'avoir de l'électricité, et c'est un véritable crime contre l'humanité, parce que ne pas avoir d'électricité, ça veut dire freiner l'éducation. Je ne peux pas lire, les enfants ne peuvent pas lire le soir des livres, sont obligés de faire de la cuisine avec des charbons de bois particulièrement polluants. En matière de santé, ils ont toutes les peines du monde à se soigner la nuit. Le fait de ne pas avoir d'électricité tue des gens chaque année, tue beaucoup de gens chaque année, et est un frein extrêmement puissant au développement économique.
Oui, au sujet de la pollution, on dit souvent, et à raison, que la pollution tue, je crois, 7 millions de personnes par an. Mais généralement, quand on donne ce chiffre, on le donne juste après avoir parlé de l'automobile à Paris. Alors que la pollution qui tue n'a absolument rien à voir avec celle-là, et que la vraie pollution qui tue, je crois, on est de l'ordre de 3 millions de personnes par an, essentiellement, ce sont beaucoup des femmes qui doivent faire la cuisine avec
des enfants,
bois,
oui.
Et des enfants qui sont autour, parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, là, pour le coup, c'est pas les particules fines qu'on a en Île-de-France, c'est vraiment des infections des voies respiratoires et énormément de morts. Ça a été chiffré par l'Organisation mondiale de la santé, à plusieurs millions de morts par an. Absolument. La vraie pollution qui tue, c'est celle-là, et c'est pas du tout, bon, même si, évidemment, on peut se poser la question de la, des particules fines en Île-de-France, bien sûr, il faut le faire, mais il faut, faut resituer, c'est important de donner les, de donner des éléments de comparaison. Ces millions de morts-là, ils sont d'abord en situation de précarité énergétique, ils n'ont pas accès à l'électricité, et on leur dit explicitement, vous n'y aurez pas accès parce que, en gros, on ne vous autorise que, qu'une électricité intermittente, chère, difficile à entretenir, et donc qui vous condamne plus ou moins.
Absolument. Ça ne veut pas dire que la pollution ne soit pas, dans un grand nombre de pays, la pollution de l'air ne soit pas un problème important et qu'il ne soit pas nécessaire dans ces pays, et même chez nous, de faire des efforts pour la réduire. Mais justement, il y a des façons de la... De la réduire. Et en particulier, on sait faire des centrales à charbon qui rejettent relativement peu de particules fines et d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote. On sait faire. La France même est-elle l'un des pays les plus avancés dans ce domaine, et c'est un savoir-faire qui va disparaître puisque les entreprises françaises, c'est Alstom, je crois, qui était, de toute façon, ils ne sont plus français maintenant, mais qui avaient ce savoir-faire et qui ne vont pas pouvoir l'utiliser. En plus de ça, ça n'empêche pas grand monde de faire des centrales au charbon, sauf que ce sont les Chinois qui viennent les faire. Même en Europe dans les Balkans, les Chinois sont en train de construire des dizaines de centrales à charbon qui seront certainement beaucoup plus polluantes et en CO2 et en polluant autrement que les centrales que nous aurions pu construire dans ces pays pour la meilleure santé de notre industrie et pour la meilleure santé des habitants et de l'humanité.
Alors, juste pour rectifier un point que tu as dit peut-être un peu vite, tu as dit la pollution au CO2 et aux particules fines. Le CO2
n'est pas un polluant.
On est évidemment d'accord. Ça, c'est une confusion qui est entretenue. Je l'ai encore lu, je crois, dans le Figaro, je crois que c'était soit hier, soit aujourd'hui, où c'était au sujet à nouveau de la réduction de la voiture à Paris, où on commence à nous expliquer des histoires de pollution, et ensuite on embraye sur le CO2. Il faut le redire parce que c'est toujours sous-entendu, même si ça n'est pas dit explicitement, mais souvent c'est dit explicitement par des gens qui n'ont pas l'idée de la chose. La pollution, c'est une chose qui existe et qu'il faut traiter, tu l'as dit, on est évidemment d'accord que l'infection des voies respiratoires sur certaines particules fines qui sont qui viennent se loger dans les poumons, c'est évidemment un problème de santé publique qu'il faut avoir à l'esprit. Sans en faire l'hystérie qu'on en fait parfois, mais c'est un problème, c'est évidemment un sujet. Le CO2, le gaz carbonique, lui, n'a rien ni de près ni de loin à voir avec un polluant. On en expire des quantités immensément plus importantes que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Je ne sais pas, là, on est trois dans une pièce de taille moyenne. On parle depuis trois quarts d'heure, une heure. Il y avait peut-être d'autres personnes dans la pièce avant. En gros, c'est difficile d'évaluer, mais on peut être à 800 ou 1000 ppm de gaz carbonique. Alors, pour situer les idées, l'atmosphère, c'est 400. Et on est en train de s'inquiéter parce qu'on va peut-être arriver à 500, à 600, à 700. On va peut-être doubler et arriver à 800. Alors, 800, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'il doit y avoir ici. Ça ne pose problème à aucun d'entre nous qui sommes ici. Il pourrait y avoir des plantes vertes, il pourrait y avoir des animaux. Ça n'est absolument pas toxique. Nous en rejetons. Et c'est même le gaz de la vie, on sait que c'est un gaz.
Même on peut montrer que le CO2 est très bon pour la production agricole. On apprend à l'école que le CO2 est la nourriture des plantes. On fait des expériences dans toutes les serres du monde où il y a énormément de CO2. Pourquoi ? Parce que les plantes qui sont là vont pousser plus vite. Et dans le globe à l'heure actuelle, depuis 15 ou 20 ans, la couverture verte, c'est un concept qui n'est pas trop clair pour moi, mais enfin, dont on voit à peu près à quoi il correspond, la couverture verte augmente. Elle augmente même au Sahara. Quand on nous explique que le désert gagne, ça n'est tout simplement pas exact. Et on a pu chiffrer l'augmentation de la production depuis 30 ou 40 ans, qui est dû à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et on arrive à des chiffres qui ne sont pas du tout négligeables. C'est quelque chose comme, j'ai moi-même fait ces calculs, je n'ai plus les chiffres dans la tête, mais j'ai les ordres de grandeur. C'est quelque chose comme 10% de la production actuelle qui est due au fait que, par rapport à ce qui serait passé si on était resté au niveau de CO2 qu'on avait il y a 30 ou 40 ans, ça veut dire qu'il y a des tas de gens dans le monde aujourd'hui qui mangent mieux, qui mangent tout simplement parce qu'il y en avait qui ne mangeaient pas beaucoup, qui mangent grâce au CO2. Et maintenant, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent, il n'y a pratiquement plus de famine et de gens qui souffrent de la faim dans le monde, dans le tiers-monde, sauf dans les pays qui sont en guerre, évidemment. D'ailleurs, tous les pays comme le Soudan ou la Somalie sont des pays où il y a effectivement des gens qui meurent de faim. Mais c'est pas à cause d'un réchauffement climatique quelconque, c'est à cause des guerres civiles qui règnent dans ces pays et qui font que plus personne ne peut planter pour récolter. Donc le CO2 a peut-être des inconvénients graves à terme pour la planète, on n'en est pas certain, mais enfin, on ne peut pas non plus l'exclure totalement. En revanche, on est certain qu'il a des avantages qui sont importants et que l'on sait mesurer avec pas mal de précision.
Alors, contre nous deux, on a quand même reçu le coup de bâton terrible de ces 15 000 scientifiques, rendez-vous compte, 15 000 scientifiques de par le monde qui ont, là, cette semaine ou la semaine dernière, publié un manifeste pour alerter le monde entier, précisément évidemment pendant la COP23, qui a été repris en une du journal Le Monde, qui a vraiment titré sur plusieurs colonnes « Il est déjà presque trop tard », et avec donc l'article en question qui explique que tout va mal, que tout va de plus en plus mal dans l'environnement sur Terre, et que notamment le réchauffement climatique est en train de créer une disruption à l'échelle du globe. Et eh bien, alors évidemment, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ce qui a permis à cet article-là de faire un buzz si planétaire que même le principal journal français a choisi d'en faire sa une, c'est que il y a 15 000 scientifiques qui ont signé cet appel. Et ce qui est intéressant, c'est que toi comme moi, nous avons regardé cet appel, et toi notamment, tu t'es intéressé aux signataires de cet appel. Qui sont ces 15 000 personnes?
Oui, mais avant de parler des signataires, il faut dire que le texte qui sert de base à cet appel, qui est un texte très bref d'ailleurs,
oui, c'est 3-4 pages à peine.
De 2-3 pages, a été rédigé par un groupe qui s'appelle le collectif des scientifiques engagés, qui est né il y a 50 ans,
oui.
Et principalement au MIT, dans une bonne université, pour lutter contre la guerre du Vietnam. Alors la guerre du Vietnam est une cause qui est tout à fait honorable et défendable, dont le rapport avec la science n'est pas particulièrement évident. Et puis ensuite, ils se sont occupés de lutter contre les OGM, de lutter contre, j'oublie des thèmes. Et maintenant, leur thème, depuis déjà une bonne dizaine d'années, c'est de lutter contre le climat. Donc on a affaire à des gens qui utilisent la science, qui mettent l'étiquette de la science sur des idées qu'ils défendent, qui sont tout à fait légitimes. Ils ont bien le droit de défendre ces réalités sociopolitiques, mais il n'y a rigoureusement rien de scientifique dans leur engagement politique. C'est un lobby qui se drape dans un manteau scientifique qui n'est même pas très sérieux. Alors, ceci nous amène peut-être au contenu du papier. qui est parfaitement discutable sur certains points. Moi, j'ai été très frappé par un graphique qui illustre l'affirmation que les forêts du monde sont en train de disparaître totalement. Alors, vous avez une courbe qui est mais véritablement une pente,
une chute dramatique.
Une pente à 70 degrés, quoi, qui est absolument dramatique. Et moi, j'ai regardé par ailleurs sur le site de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est, c'est que au cours des 25 années passées, la couverture forestière dans le monde entier a diminué de quelque chose comme 2% ou 3%, c'est-à-dire de 0,1% par an. Alors c'est peut-être fâcheux, c'est peut-être beaucoup trop, ça, on a le droit d'essayer de montrer ça, mais quand on déguise cette chute tout de même faible par un graphique qui a une pente de 70 degrés, on est tout de même aux limites, et en disant limites, je pense, hors des limites, mauvais côté de l'honnêteté intellectuelle. Alors, venons-en aux 15 638 signataires. D'abord, ces signataires n'ont rien signé du tout. On leur a montré l'article de 3 pages et on leur a demandé de cliquer dessus pour dire s'ils étaient d'accord. Alors, et d'indiquer qui ils étaient. Pas la moindre vérification, rien qui les empêchait quelqu'un de cliquer 4 fois avec un nom différent. Dans des cas comparables, on avait vu des gens qui signaient Marilyn Monroe, entomologiste.
En l'occurrence, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a, il y a dans la liste, il y a des noms fantaisistes qui apparaissent, qui ont été repérés, qui sont retirés, mais
rien ne l'empêche en tout cas. Et les auteurs de ce coup médiatique n'ont rien fait du tout pour empêcher ça de se produire. Alors moi j'ai essayé de chercher qui étaient ces gens. Alors j'ai pas regardé les 15 000 noms, mais j'en ai tiré 200 au hasard et j'ai regardé. Alors il y a à peu près un petit tiers d'universitaires, dont la majorité d'ailleurs ne sont même pas des professeurs, mais des gens qui ne sont pas encore professeurs. Il y a à peu près un tiers d'étudiants, compris des gens qui n'ont pas écrit de thèse, enfin qu'il est difficile de peut-être de futurs grands savants, ça c'est bien possible, mais pour le moment c'est des savants en devenir ou des savants embryonnaires. Et puis il y a un autre gros tiers de gens pour lesquels on n'a aucune identification. On a monsieur un tel, architecte Brésil. Bon, alors, on peut être un architecte brésilien et être un grand spécialiste des questions climatiques, mais enfin, on peut aussi être un architecte qui n'est pas content du système capitaliste brésilien, qui n'est pas toujours parfait.
En effet.
Où on a des gens qui disent simplement un tel entomologiste Allemagne, alors on ne sait pas qui il est, employé d'un zoo, alors peut-être que c'est un grand spécialiste des bêtes du zoo, ou peut-être que c'est quelqu'un qui apporte du fourrage dans les cages des lions, on ne peut pas le savoir. Donc finalement, on a, et parmi les gens qui sont des professeurs, il y a des professeurs dans toutes les universités, y compris les universités dont la notoriété n'est pas très très grande. Le principal signataire est un professeur à Oregon State University. Bon, c'est peut-être une université très honorable, mais enfin, ça n'est pas une université que l'on trouve en très bonne place dans le classement de Shanghai des universités, en tout cas. Donc, on ne peut pas savoir qui sont ces gens, et en tout cas, des véritables scientifiques, supposer que la formule ait véritablement un sens, on doit en avoir 200 ou 300, ce qui par rapport au nombre de scientifiques qu'il y a dans le monde est évidemment une fraction infinitésimale.
Alors, il y a au moins, je ne sais pas s'il est signataire, mais on peut mentionner un membre de cette organisation, donc Union of Concerned Scientists. Concerned est un faux ami, ça ne veut pas dire Union des scientifiques concernés, non. Mais plutôt
engagé.
Et il y a un membre intéressant. C'est le chien d'un Américain qui s'appelle Anthony Watts, qui est un blogueur très célèbre, qui a un blog sur le climat qui est connu du monde entier, donc c'est What's Up With That. Il a eu l'idée de faire adhérer son chien Kenji. Donc la seule chose en fait qui a été demandée au chien Kenji, ce n'est pas de montrer ses diplômes, évidemment, et pour tout, mais juste d'avoir une carte bancaire. Et donc c'est un bel acte, hein, une belle chose. Donc Anthony Watts a eu le courage de payer Union of Concerned Scientists $35 pour faire adhérer son chien, et on a eu droit pendant des mois à la chronique de Kenji reçoit du courrier de Union of Concerned Scientists. Cher monsieur Kenji, merci de militer avec nous. Alors que, effectivement, en principe, pour être membre de Union of Concerned Scientists, il faut être scientifique. Et dans l'article où nous parlons, donc de 15 000 signataires, etc., il y a les endorsers qui peuvent être, c'est-à-dire ceux qui soutiennent après coup. On peut soutenir encore après coup aujourd'hui. Je suis allé voir aujourd'hui. On demande le nom, le prénom, l'université, et c'est tout. On ne demande même pas un mail. On ne demande même pas un mail. On peut le donner, mais c'est tout. Et si on le donne, c'est juste pour recevoir des informations, enfin pour être dans une mailing list, mais même pas à fin de vérification. Donc on n'est en fait pas du tout dans le... Enfin, on n'a pas du tout affaire aux 15 000 meilleurs scientifiques du monde, mais effectivement à militants qui se réunissent. C'est effectivement, je suis pleinement d'accord avec ce que tu dis, ils ont parfaitement le droit de le faire, ils ont parfaitement le droit de défendre ce à quoi ils croient. En revanche, quand ils se font passer pour scientifiques, là, on est clairement dans l'abus, hein, et dans l'usurpation de titres, parce que même s'il y a évidemment quelques scientifiques parmi eux, ça n'est certainement pas la totalité. Voilà,
On a quelques questions quand même. Je suis désolé de vous couper un peu la parole. On a des questions qui quand même arrivent. On a d'abord été interpellé par une auditrice qui nous demande, mais j'ai cherché sur internet votre histoire des ours là, du montage en synthèse. Est-ce que vous avez des sources, parce qu'elle trouve pas sur internet?
Alors je pense que le mot-clé sur Google, ça doit être Ursus Bogus.
Il fallait la trouver, celle-là. C'est
un montage. C'est un montage. Je ne sais pas comment il a été présenté
avéré,
au départ, mais c'est un montage. On sait que c'est un montage. J'ai pas de problème. Alors, là, sur le coup, j'avais pas prévu qu'on parlait sur ce plan, mais c'est très facile. Vous tapez Ursus Bogus. C'est comme ça que ça a été surnommé après, et on le trouve très facilement, par exemple, sur le site d'Anthony Watts, qui donne tous les éléments. On voit la vraie photo, la fausse. Et bon, c'est à peu près clair. C'est pas tellement contesté.
Qu'elle n'avait pas trouvé.
Ça prouve pas. C'est pas un exemple qui prouve à soi tout seul que toute cette affaire est fausse, mais c'est un élément intéressant parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est un symbole.
Alors, on a une autre question. On nous bassine tout le temps avec la fonte des glaces. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de fonte des glaces? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors, la fonte des glaces, c'est un exemple assez classique. Ça fait partie de ce qu'on dit pour entretenir la flamme. Le climat, il y a la température, il y a le niveau marin, il y a la glace au pôle nord, il y a la glace au pôle sud, il y a les tempêtes, il y a les sécheresses. Il y a toujours il y a plein de choses. On peut toujours picorer une courbe qui, à un moment donné, a tendance à descendre, à monter. Si vous vous intéressez effectivement aux glaces de mer, on parle plus tellement de la banquise au pôle nord. Depuis quelques années, on se souvient qu'on en a parlé parce qu'on a fait un gros buzz, notamment.
On voit des photos quand même de temps en temps.
On
dans
en
la
voit
presse.
De temps en temps, mais elles sont assez peu commentées. Et pour cause, il se trouve qu'en fait, après une légère baisse, enfin une baisse observée jusque dans le milieu des années 2000, la banquise au pôle nord ne diminue plus. C'est à peu près stationnaire. On a eu une chute en 2007, une autre chute en 2012, mais si on regarde la tendance et non pas la valeur telle année, qui évidemment, parce que c'est évidemment très fluctuant, en gros, ça ne bouge plus depuis 10 ans. Raison pour laquelle on en parle moins, parce qu'on nous annonçait la spirale de la fonte qui allait accélérer. Al Gore lui-même avait parlé d'une fonte totale, je crois, en 2013 ou 2014. On en est très loin. On en est très loin. Cette année, on est à plus de 4 millions de kilomètres carrés, comme d'habitude. Donc, au moins au nord, il y a eu une légère baisse et une stabilité. Savoir si la baisse antérieure était particulièrement remarquable, c'est très difficile à dire parce que les données sont récentes. Et donc, en gros, ça a l'air plutôt stabilisé. Et puis, dans l'hémisphère sud, là non plus, on n'en a pas parlé. Autour de l'Antarctique, il y a aussi de la glace de mer, bien sûr. On a battu le record d'extension. Jamais on n'avait observé autant de glace en 2015, avec plus de 20 millions de kilomètres carrés. Gros record battu. Et depuis, en revanche, il y a eu, donc, ces deux dernières années, 2016 et 2017, une grosse fonte, assez inhabituelle. Mais bon, c'est
dans un endroit seulement, dans la partie ouest.
Ah, non, là je parle de la glace de mer. Hein, je parle pas de la glace de mer a fondu. Il y a eu El Niño, donc un phénomène de réchauffement du Pacifique qui peut expliquer ça. C'est très ponctuel probablement, mais grosso modo, ce qu'on observe aussi, c'est que quand ça fond au nord, ça se renforce au sud et inversement. Et il y a peut-être il y a des choses à dire là-dessus, probablement sur les transferts de chaleur, peut-être dus à la circulation dans l'Atlantique. Toujours est-il qu'on n'est absolument pas dans une death spiral comme nous l'annonçait. Ça monte, ça descend, comme n'importe quelle courbe climatique. Il n'y a rien à en dire de spécial.
Alors sur l'Antarctique, le pôle sud, à la différence du pôle nord, c'est de la terre, l'Antarctique, hein, qui est recouverte de glace, dont on arrive à peu près à connaître l'extension avec des photos aériennes, mais dont on connaît assez mal la profondeur.
On en a une petite idée depuis peu, d'ailleurs, parce qu'on a retrouvé des choses.
On en a des idées, oui. C'est absolument immense, ce continent. Je crois que c'est l'ordre de grandeur des États-Unis d'Amérique. Donc ça fait plusieurs milliers de kilomètres de c'est ça, c'est l'ordre de grandeur. Alors évidemment.
De l'ordre de la dizaine de millions.
C'est ça. Il y a des parties où la glace s'accumule et d'autres où elle diminue. Il est facile d'imaginer qu'il n'y a pas une homogénéité parfaite. Et donc il y a, je crois que c'est du côté ouest, des endroits où il y a des glaces qui diminuent. On se demande d'ailleurs si ça ne diminue pas parce qu'il y aurait eu des éruptions volcaniques souterraines qui auraient contribué évidemment à faire fondre la glace, encore que quand l'épaisseur est si grande, ça ne fond que très lentement. Mais il y a tout le reste et globalement, la glace de l'Antarctique a plutôt tendance à augmenter. Quant aux glaciers, alors il y a les glaciers.
C'est la question que j'allais vous poser.
Oui. Alors les glaciers, c'est sur la Terre, dans les montagnes. Il y a un certain nombre de glaciers. Il y a pas mal d'endroits où les glaciers diminuent, c'est-à-dire que les glaciers sont de plus en plus courts, faut monter de plus en plus haut. Sauf que il arrive qu'en se retirant, la glace fait apparaître des constructions d'églises mérovingiennes ou d'églises romanes. Ce qui veut dire que à un certain moment, au 10 ou 11e siècle, les glaciers étaient encore plus hauts que ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, visiblement, ils ont beaucoup descendu puisque tout ça a été recouvert de glace. Maintenant, ça diminue, en effet, notamment dans les glaciers d'Europe, d'ailleurs, je crois, plus qu'ailleurs. On s'aperçoit que il y a là un phénomène qui fluctue au cours des siècles et qui ne donne pas lieu qui n'a pas une très grande importance parce que les quantités de glace qu'il y a dans les glaciers terrestres sont finalement très faibles par rapport à ce que l'on trouve au pôle.
Pour rigoler, j'ai toujours le même qui nous dit il y a une carte de 1513, je pense qu'il fait référence à une carte de Piri Reis, mais je ne sais pas si vous connaissez ça, qui montrerait avant les grandes découvertes de ce continent antarctique qu'il y avait des villes, qu'il y avait des fleuves, mais on a retrouvé, on le sait, on a scientifiquement retrouvé des palmiers, etc. Sous la glace, aujourd'hui. On sait qu'il n'y avait pas de glace il y a très très longtemps. C'était évidemment un petit clin d'œil. On est pas mal interpellé, notamment avant l'émission, on vous demande vos rapports avec un certain Christian Girondeau, qui pose pas mal de problèmes parce que pour beaucoup de gens, c'est une espèce de chantre du lobby automobile, etc. Et pour beaucoup, ça vient contrecarrer un peu votre message et ça le rend inaudible. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce qui me concerne, c'est que je ne fais pas de cette affaire du climat une affaire de personne. Ce qui est intéressant n'est pas de savoir si on aime bien tel ou tel ou si on n'aime pas tel ou tel. Et on ne doit pas choisir son camp sur la base de la sympathie que nous inspirent les uns et les autres.
C'est pas tellement la personne, c'est surtout ce qu'il représente.
Ce qui représente, peu importe. Ce qui est important, ce sont les arguments. Et on n'est pas obligé d'être sympathique pour avoir raison. On n'est pas obligé de représenter quelque chose qu'on aime bien pour avoir raison. Alors, je connais Christian Giraudeau, j'ai rien à lui reprocher particulièrement. C'est pas une façon de me distancier. C'est une façon de dire la question n'est pas là. Et c'est quelque chose précisément qu'on a oublié et qui affaiblit considérablement la science aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, y compris des scientifiques, disent vous êtes climato-sceptique, donc vous êtes immoraux, vous êtes c'est pas seulement vous tromper, mais vous êtes méchant. Or, si on veut faire de la science, on doit s'intéresser à distinguer le vrai du faux, certainement pas le bien du mal. Or, et le climat, c'est d'abord une question scientifique, ça n'est pas une question morale. Savoir si le gaz carbonique réchauffe la planète, savoir si les éoliennes peuvent contribuer à notre sécurité énergétique, ce sont des questions économiques, ce sont des questions scientifiques. Et la morale ne doit pas intervenir.
Moi, je peux répondre à votre question parce que je connais assez bien Christian Giraudeau. Il y a au moins deux choses que l'on peut dire. La première, c'est que c'est quelqu'un de très respectable pour la raison qu'il est l'homme qui, à lui tout seul, a inventé la sécurité routière en France. C'est lui qui a imposé, il était alors au cabinet de Chaban-Delmas, ce qui ne nous rajeunit pas beaucoup, et qui, pour un certain nombre d'auditeurs, ne doit pas vouloir signifier grand-chose. Et c'est lui qui a imposé les premières ceintures de sécurité, les premières limitations de vitesse. Et c'est donc quelqu'un qui a sauvé des centaines et des milliers de vies humaines. Quand il se rase le matin dans la glace, il voit quelqu'un qui a sauvé des dizaines de milliers de vies humaines. Et c'est quelque chose qui mérite le respect. Il n'y a pas tant de gens qui peuvent dire ça. Deuxièmement, il s'est effectivement occupé d'industrie automobile. Il a présidé l'Automobile Club de France, qui rassemble les 30 millions d'automobilistes, parmi lesquels il n'y a pas que des scélérats, n'est-ce pas? Et il s'est un peu aussi occupé de quelque chose qui s'appelle l'Union routière, qu'on appelait parfois le lobby automobile. Je lui ai rendu visite à l'Union routière. Seul cet énorme lobby, c'était lui tout seul et sa secrétaire, avec un budget qui était dérisoire, qui couvrait son salaire et celui de sa secrétaire. J'ai toujours trouvé drôle que l'on parle du lobby automobile pour désigner Christian Giraudeau tout seul, et qu'on ne parle pas du lobby ferroviaire, où la SNCF a un service de communication qui emploie 200 personnes.
Évidemment. On a, alors là, ça vient pour la prochaine, enfin c'est un joli trait d'union avec la prochaine question, qui est pour vous, Benoît, en fait, parce que vous parlez effectivement des scientifiques, de la science, etc., vous êtes mathématicien, et beaucoup nous demandent, mais comment ça se fait, quelle légitimité vous avez, et c'est pas du tout un reproche, mais quelle légitimité vous pouvez avoir, vous, à parler du climat, alors qu'il y a des dizaines ou des centaines, et pas les 15 000, mais des centaines de scientifiques qui n'ont pas la même thèse que vous.
Il y a plusieurs niveaux de réponse à ça. L'une d'elles, c'est que d'abord la climatologie. Enfin, c'est pas facile de trouver vraiment un climatologue qui est légitime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont repeints en climatologue au moment où cette affaire est apparue, parce qu'effectivement ça a drainé beaucoup de, enfin ça a attiré beaucoup l'attention.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas
C'est une discipline qui est en train de se former. Et la plupart de ceux qui sont climatologues ont en fait une formation un peu différente. Alors, c'est en train de changer mécaniquement précisément parce que la discipline émerge, mais les grands fondateurs, il n'y a pas si longtemps, ne sont pas climatologues à proprement parler de formation. Par exemple, Jean Jouzel, le principal représentant de la climatologie en France, au départ, il est glaciologue. C'est un petit peu différent. Les climatologues, jusque dans les années 80, je dirais, étaient d'abord des géographes. On a par exemple le cas assez célèbre en France de Marcel Leroux, qui était le directeur du laboratoire climat, risque et environnement à Lyon, qui est décédé maintenant, mais qui était évidemment tout à fait notre avis, comme pas mal de géographes, tout à fait climato-réalistes. Donc cette légitimité là, bon, on peut poser la question un peu à tout le monde. Et puis d'autre part, en fait, c'est un élément de réponse, mais c'est un élément de réponse qui quelque part me gêne un peu, parce que je ne suis pas en quête de légitimité. Et c'est à nouveau, ça n'est pas une affaire de personne. Ce n'est pas la science a ça de particulier que, et c'est ce qui fait sa force. Elle ne s'intéresse pas aux messagers. Elle s'intéresse aux messages. Elle s'intéresse uniquement aux arguments. Einstein, j'en rajoute un peu, mais bon, c'est une histoire connue et c'est rigolo, même si elle est un petit peu excessive, mais Einstein, il a publié 3 articles majeurs qui ont révolutionné la physique en 1905. Il était à ce moment-là ingénieur de 2e classe au bureau des brevets de Berne. Hein, et oui, on sait que, en fait, il écrivait ses articles en douce pendant qu'il faisait son travail. Il avait des collègues qui avaient compris qui il était. Et le jour où il a démissionné de son poste, il a dit à son chef, bon, voilà, maintenant j'ai un poste à l'université. Et le chef n'avait pas vu pendant des mois que Einstein était en train de révolutionner l'univers. Il a pu publier ses articles et on lui a pas dit, mais attendez monsieur, vous êtes qui, vous sortez d'où, ça n'a pas fonctionné comme ça, et heureusement. Et la science, ça ne fonctionne pas sur le nombre, ça ne fonctionne pas sur la réputation, ça fonctionne sur le message, ça fonctionne sur les données. Et le but n'est pas le but est d'abord de comprendre ce qui se passe et pas de se mettre d'accord, pas de faire un consensus, pas de...
Mais la science mathématique vous a aidé malgré tout dans la démarche.
La science mathématique, oui, parce que ça permet d'avoir un certain recul on est capable de lire une courbe. Une fois, j'ai eu un journaliste, où j'ai eu une petite polémique avec un journaliste qui visiblement ne savait pas lire une courbe et réduisait la courbe à son point final. Alors évidemment, là c'était les données sur l'Antarctique, et évidemment c'est très très fluctuant, et donc moi j'avais logiquement regarder un peu la tendance. Il n'y a pas forcément de besoin d'énormément d'outils pour se rendre compte d'une tendance plate ou d'une tendance haussière. Et lui m'objectait, mais regardez, le dernier point, il est très bas, alors que ça faisait des oscillations permanentes. Donc ça sert à ça d'être un peu mathématicien, d'avoir une formation intellectuelle scientifique, d'avoir un peu de recul, de pas avoir peur de se frotter à quelques données, d'aller un peu dans le détail. À part ça, en fait, je pense que dans cette affaire de climat, on se rend compte assez vite que quelque chose ne va pas. Il y a plein de façons d'aborder la question. Rémi est plutôt côté économie, et la plupart des climato-sceptiques d'abord le sont devenus, et chacun avec son angle, parce que on a affaire à un édifice qui ne tient pas debout, et donc il y a plein de manières de se rendre compte que quelque chose ne va pas.
Je vais revenir deux secondes sur le climato-sceptique, et je vous redonne la parole, Rémi, oui. Tout de suite, mais climato-sceptique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, vous dites qu'il n'y a pas de réchauffement, on est bien d'accord là-dessus. Alors, mais pour beaucoup, c'est ce qu'ils entendent.
Les raccourcis,
c'est ça, et c'est ça qui est terrible.
Il faut comprendre qu'on est connu principalement par ce que disent de nous nos adversaires. Donc c'est très difficile pour d'échapper à la caricature. Et quand on commence à parler, on doit d'abord effectivement enlever toute une couche de stéréotypes et de clichés qui nous sont accolés. On ne nie pas on peut toujours discuter, hein, mais d'une façon générale, on ne nie pas qu'il y a eu un léger réchauffement au XXe siècle. On peut discuter sur son ampleur. La façon dont le réchauffement s'est produit a été très contrastée. Et ce que nous disons effectivement, et qui peut faire croire à certains qu'on nie le réchauffement, c'est que sur les dernières années, depuis une quinzaine d'années, effectivement, il y a un arrêt, une pause, un plateau, éventuellement, ou au moins un ralentissement de la hausse des températures, qui est statistiquement quand même assez visible.
Rémi, pardon, oui. Je vous ai coupé la parole.
Oui, l'idée que on pourrait diviser le monde en deux camps, ceux qui sont climatologues et ceux qui ne sont pas climatologues, est une idée fausse. C'est une idée qui n'a pas de sens. Le champ de la climatologie est tellement immense que personne ne peut se flatter de l'appréhender dans toute sa richesse. On est dans un domaine qui est essentiellement pluridisciplinaire. Et il faut que des gens qui ont des formations très très différentes, qui n'ont rigoureusement rien à voir, se mettent ensemble pour essayer de comprendre. C'est une science naissante, et d'ailleurs l'un des problèmes, c'est que c'est une science qui n'existe que depuis une vingtaine d'années. Auparavant, personne n'était véritablement climatologue, et pour qu'elle devienne une science mature, Il faudra 20, 30, 40 ans au moins, quoi. On est à peu près au niveau où la médecine se trouvait vers, je ne sais pas, on pourrait discuter de la date, mais disons quelque chose comme 1800, quelque chose comme ça. Et on voit que même encore aujourd'hui, la médecine sur tous les points ne fait pas nécessairement une unanimité. Donc la question de savoir si on est climatologue ou si on n'est pas climatologue est une question qui n'a pas grand sens. D'ailleurs, si l'on prend le GIEC, qui est supposé être le rassembler les des scientifiques, vous avez pratiquement les deux tiers des rapports du GIEC qui n'ont pas grand-chose à voir avec la physique et la chimie du climat. Vous avez des gens qui parlent des transports, qui parlent de l'énergie, qui parlent de l'agriculture. Et c'est très normal et très désirable qu'il en soit ainsi. Ça, c'est un premier point. Le second point, ce que disait Benoît, c'est que, en revanche, il y a des gens qui ont une formation scientifique. Des gens qui, dans un domaine, peu n'importe lequel d'ailleurs, ont fait du travail scientifique, essentiellement une thèse d'ailleurs, et qui, ce faisant, ont acquis des méthodes, ont acquis des façons de traiter les données, acquis l'habitude d'un regard critique sur les choses. Et c'est d'ailleurs tout le principe de la thèse. Dans tous les pays du monde, les professeurs d'université sont des gens qui ont fait une thèse sur un point extraordinairement mineur. Et à partir de cela, ça leur donne d'abord l'obligation de faire des cours sur à peu près n'importe quel domaine, au moins dans le champ dans lequel ils ont été, et ça leur donne finalement le droit ou l'habitude de parler sur des tas de problèmes qu'ils n'ont abordés que indirectement. Mais s'ils n'avaient pas fait cette thèse en se donnant le mal d'aller faire des calculs, de rassembler des chiffres, de trier les chiffres significatifs des chiffres non significatifs, ils ne pourraient pas faire ça. Donc c'est aussi un point important de souligner que nous avons une formation scientifique, parce que ça s'est trouvé comme ça. On n'est pas plus malin que d'autres pour ça, mais on a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir une formation scientifique, et donc on a la capacité à lire et à comprendre et à critiquer, pas tout bien entendu, il s'en faut de beaucoup dans ce domaine-là, mais à critiquer et à comprendre beaucoup de choses dans ce domaine, en y passant du temps, en réfléchissant, en s'informant, en discutant. Donc la question, est-ce qu'on a une légitimité, doit être éclairée par ces deux points. Le fait que personne n'est compétent sur tout dans un champ aussi vaste, et le fait qu'il y a des gens qui ont une compétence, une expérience et une pratique scientifique et des gens qui n'en ont pas.
Parfait, plus de questions de mon côté. Je pense qu'on peut peut-être donner rendez-vous la fois d'après.
Oui, donc la prochaine émission devra avoir lieu le mercredi 6
c'est ça.
Décembre, à 20h à nouveau.
Même lieu, même heure.
Même lieu, même heure. Et donc on dira en temps utile qui sera parmi nous. Et c'est aussi, puisqu'on en est à donner rendez-vous, je veux aussi profiter de l'occasion pour signaler que le lendemain du 6, c'est-à-dire le 7 décembre, donc l'Association des climato-réalistes organise une journée complète de conférences. Ce sera à Paris au Musée Social, qui est dans le 7e arrondissement. Et dans cette donc c'est une journée de conférences et de débats, un peu pour faire contrepoint à la journée qu'organisera le président de la République la semaine suivante. Enfin, on essaiera en tout cas de la rendre telle. Et parmi les invités, il y a deux personnes qui me semblent nécessaires de mentionner. D'abord, nous recevrons plusieurs, on peut en donner quatre peut-être. La première d'entre elles, c'est Václav Klaus, qui est l'ancien président de République tchèque. Il a été premier ministre puis président de la République tchèque. C'est celui qui a était le premier président, parce qu'il a réalisé la séparation avec la Slovaquie, qui est donnée aujourd'hui en exemple comme d'une séparation réussie et sans violence. Et c'est quelqu'un qui est engagé depuis très longtemps sur les questions d'environnement. Nous recevrons aussi Patrick Moore, qui est le cofondateur de Greenpeace.
donc, qui a un destin tout à fait extraordinaire, qui a été de ses premiers combats de cette ONG aujourd'hui célèbre, l'une des plus célèbres du monde. Et il a, dans les années 80, quitté Greenpeace quand il a compris ce que ça devenait. Et il est aujourd'hui le principal adversaire du monstre qu'il a lui-même créé. Et il porte un regard très intéressant sur cette ONG, sur l'environnement et la façon de traiter l'environnement aujourd'hui. Nous recevrons aussi Chantal Delsol, qui est philosophe et qui a aussi des réflexions intéressantes sur la question. Elle est académicienne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, elle a été présidente il y a 2 ans. Et nous recevons aussi ton ami Yann Bayat, qui est l'ancien, alors le titre exact c'est régulateur, je vais y arriver, régulateur des eaux, enfin de l'eau en Angleterre et au Pays de Galles. Donc on aura vraiment des gens qui viendront du monde entier.
C'est lui qui se faisait insulter par les tabloïds anglais dès qu'il y avait un petit problème d'eau ou de manque d'eau quelque part dans l'Angleterre et le Pays de Galles.
Voilà. Donc,
où est-ce qu'on peut s'inscrire?
Alors, on peut s'inscrire. Bon, on peut aller sur la page Facebook des climato-réalistes, où on trouve tous les. Le programme complet sera mis en ligne demain. Il y a eu un premier programme qu'on a mis en ligne qui a été un petit peu modifié depuis. Et donc, sur le site de l'association aussi, donc climato-réalistes, si on tape climato-réalistes sur Google, nous pouvons nous prévaloir d'être le premier site qui sort.
Mais sur la page Facebook, de toute façon, il y a un lien.
Sur la page Facebook, voilà. Assez facilement, on nous trouvera assez facilement pour tout. Donc vous êtes tous les bienvenus.
Et j'ai une dernière question de Camille qui vient de nous rejoindre. Et en fait, il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint à cette heure-là. Peut-être qu'il faudrait imaginer faire des émissions plus tard. Mais bon, oui. Camille qui demande, est-ce qu'il existe des vidéos, des conférences de la Contre-COP 23? Et si oui, où est-ce qu'on peut les voir?
Alors, je ne sais pas ce... Alors, Contre-COP 23... Alors, non, la Contre-COP 23, parce qu'on a fait il y a 2 ans une Contre-COP 21, on a fait l'an dernier une Contre-COP 22, et il y a déjà eu la Contre-COP 23, elle était à Düsseldorf, donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. La Contre-COP, c'était avec Heike, donc les Allemands de Heike. Nous étions partenaires de cette manifestation-là, mais ce sont plutôt eux qui ont la main. Je pense que oui, il y aura des vidéos,
mais en allemand.
Non, alors c'était en anglais. Certains ont parlé en anglais, d'autres en allemand. Et les vidéos qui ont eu lieu, enfin les conférences qui ont eu lieu en allemand étaient doublées en anglais. Voilà.
Bon, donc à suivre. Mais la réunion du 7 pourrait être baptisée Contre COP 23.
c'est le contre-sommet, mais ça pourrait être la Contre COP 23.
Qui sera retransmis en vidéo lui aussi?
Alors, il n'y aura pas de retransmission en direct. On enregistrera, mais il ne faut pas que ça dissuade les gens de venir rencontrer, discuter avec Patrick Moore, avec des gens comme ça. Je le connais personnellement. C'est quelqu'un de très brillant, de très intéressant. Et d'autres aussi. Voilà.
Messieurs, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, on se retrouve le 6 décembre. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous.